I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes favoris de passage, de mettre vos écouteurs et de vous évader. Des histoires pleines de péripéties, des aventures marquantes avec de l'adrénaline, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans son salon. Bonne écoute et bon voyage.
Louis. Je crois que ma vertu préférée, parce que bizarrement j'ai une vertu préférée, chacun compose avec l'absurdité de ses questionnements intimes, je crois que ma vertu préférée, c'est le courage. Je ne l'aperçois pas du tout comme une vertu viriliste, la valeur guerrière d'un autre temps qui impliquerait de démontrer sa force, certainement pas sa violence. Le courage est toujours le fragile aveu de ses propres peurs, que l'on a décidé de reconnaître et d'affronter. Il faut bien, puisqu'on ne peut être courageux que si l'on a peur. Sans ça, c'est seulement de l'inconscience. Je le vois aussi, le courage, comme la pensée en action, puisque, comme l'explique la philosophe Cynthia Fleury, le courage est indissociable d'un acte raisonnable. Il relève d'un pacte avec la raison, et non avec l'hubris, sinon il devient passion, orgueil, intempestivité, démesure, dit-elle. Le courage cristallise nos contradictions en mouvement. Il dit alors si bien tout ce que l'on peut être, au comble de notre humanité. Et voici donc, aujourd'hui dans Passage, une histoire de courage, au micro de Natacha Avram.
Mon nom c'est Alexandre, tout le monde m'appelle Andy, je suis architecte, décorateur de formation et j'ai 71 ans. Je suis arrivé en France depuis 1983. Ça veut dire depuis 39 ans.
Mon prénom, c'est Georges. Mais le prénom roumain, c'est Gheorghe. Mais comme je ne pouvais pas le prononcer à 3 ans, je me suis dit moi-même Guigui. Voilà, c'est comme ça que tout le monde m'appelle maintenant Guigui.
Je passe mon enfance en Transylvanie. J'aime bien dessiner et mes grands-parents qui prennent la décision sur mon avenir décident qu'effectivement avec ce don, ça vaut la peine d'aller à Bucarest. Et c'était une école de beaux-arts, donc je suis inscrit là-bas et je continue mes agissements artistiques.
Je suis né en 1951 à Bucarest, en Roumanie, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. En 20 ans, je rentre à l'Institut d'architecture de Bucarest, un institut qui est très très bien, et je deviens l'animateur de Club Architéâtre, qui est un club un peu underground, et que je sens qu'elle est quand même surveillée par la sécurité.
Le régime que Ceausescu entend appliquer, c'est donc un régime qui tourne vers la terreur. Le bras informatif, celui qui va dénoncer tout acte contraire à la volonté du parti communiste. Et lui, il entend bien de l'utiliser au maximum. Donc, dans ces conditions-là, en tant que jeune, on se rend compte qu'on a un peu la jeunesse foutue par rapport à ce que l'État peut offrir ou le régime peut offrir. Donc, il nous reste à se replier sur nous-mêmes, sur nos amis de confiance et sur la famille.
En 1974, je me marie, donc assez vite, car on est l'esprit libre, on est hippie et on veut faire vivre la vie ensemble. On monte sur la moto avec mon épouse Vera et on part loin de la maison de mes parents, dans une banlieue très éloignée du centre de Bucarest. Et on reste une nuit et ma moto le lendemain matin tombe en panne. On prend 3 moyens de transport pour arriver à nos facs, respectivement université centre-ville de Bucarest pour moi et médecine pour elle. Et je vais à la fac, j'arrive à 8 heures du matin et je rencontre un tout petit, gentil, mais toujours très éloigné de notre bande de motards, Andy. Il s'appelle Andy, je le voyais, il avait les blonds avec les yeux bleus, très gentil, et il me demande « Mais pourquoi tu viens à 7 heures d'habitude? Tu viens plus tard, au deuxième cours, à 10 heures. »« Mais parce que je me suis marié. »« Hein, j'ai entendu parler. Vous avez fait une grande fête avec des motos sur les boulevards et tout ça. Oui, oui, oui. Oui. »« Bah, dis donc, alors, tu veux pas qu'à la pause, on mange une soupe ?» Je dis « Une soupe ?»« Où ?»« Dans le passage ici, dans le passage Victoria. » Et il m'amène et il me sert une soupe de tripe. J'ai jamais mangé chorba de burta, puante. Oh. Mais avec Andy qui est sympa, qui me regarde et qui sourit, ben la soupe, elle est bonne, en fait. À midi, on reste ensemble encore une fois pour étudier un peu. Et puis l'après-midi, il me dit, mais et là, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends mon épouse, elle revient avec le bus de la fac de médecine. « Ah bon, je peux venir avec toi ?»« Oui, viens. » Et quand Vera descend du trolley, waouh, je vois Andy qui ouvre bien les yeux et qui dit « Waouh !» Mais c'est vrai, Vera, elle est belle, elle a les yeux bleus, un peu comme lui d'ailleurs. Il dit « Vous ne voulez pas que vous passiez chez moi un peu ? Parce que moi, je sais faire une pizza. » Pizza ? À l'époque, on savait à peine ce que ça veut dire. Et on va chez lui. Et on nous sert une pizza magnifique, un peu de tzuika, un peu de l'eau de vie. Et vers 9h du soir, on veut partir. Et lui, il dit, mais vous ne voulez pas rester parce que voilà, c'est trop tard maintenant pour aller très loin là-bas. J'ai une chambre à côté là. Ah bon? Et on ouvre la porte et on voit une chambre vide avec un lit matrimonial. Ça sent un peu les vieux, mais oui, c'est une chambre des vieux. Andy nous avoue, il vient de perdre ses grands-parents.
Après cette nuit, ça me semblait tout naturellement de leur proposer de loger chez moi.
On est venu pour une nuit et on est resté 5 ans. C'est là que ça commence une grande amitié, une amitié extraordinaire et inséparable.
Ça fait que mon manque d'avoir des frères ou des gens dans ma famille de mon âge, il est absolument comblé par lui qui est en plus de ça un personnage époustouflant. Il me fait connaître plein des amis avec qui il partage des soirées, des événements. Et donc, malgré ma timidité, je commence à me glisser dans ce groupe. Aussi bien on fait des fêtes où on se donne des thèmes de déguisement et donc de ce fait on sort d'une monotonie étatique d'habillement parce que tout est contrôlé par l'État, y compris les vêtements. Il y a 2 types de chaussures dans le pays ou 2 types de pantalons, ainsi de suite. Donc en se déguisant, en coupant, en transformant les vêtements, on a l'impression qu'on donne plus de couleurs au propre figuré à nos fêtes.
On est différent d'Andy, parce qu'Andy, il est en retrait, il est tout timide, il rougit quand on fait des blagues un peu à côté de la plaque. Et puis Vera, elle l'aide, on rigole ensemble. Et on l'aide à quoi? On l'aide à s'ouvrir, en fait. Nous, on a cette bande, on lui fait connaissance à notre bande de motards, à notre bande hippie. Et la bande l'aime. Et on est pas méchant, c'est une bande qui fait plutôt du théâtre, du spectacle, en cachette, un peu en, sur des endroits un peu interdits, mais on n'est pas méchant, on est gentil. Et Andy, c'est un gentil, en fait. Et il rentre bien dans le groupe.
En avançant dans l'âge, on a plein des événements qui nous montrent tous les jours que le régime il est de plus en plus serré, de plus en plus dur, et que nos chances de survie s'amoindrissent au fur et à mesure. Cette chape de plomb, elle est de plus en plus lourde, c'est un tissage dans lequel on s'enlisse, et ça prend le dessus de nos envies et de nos espoirs.
Notre club d'architecture, c'est le club A. Il est connu dans toute la capitale. Il y a les polytechniciens qui viennent, il y a toutes les facultés qui veulent rentrer dans ce club parce qu'on nous passe des films comme Orange Mécanique, qui est un film d'une violence qui nous montre le côté noir de l'Occident. Il y a des films qui sont interdits sur les écrans, mais qui se passent dans notre club. On organise des soirées jazz, on organise des soirées thématiques. Tout est fait pour qu'on puisse rester calme. On peut danser les week-ends, on danse les rock'n'roll. Je reçois d'un ami de l'étranger les 4 albums de Woodstock en originaux. Waouh, la première fois qu'en Roumanie pénètre une telle musique. Et ces choses-là sont surveillées. Elles passent, mais elles sont surveillées parce que notre club, il est quand même sous l'œil constante de la sécurité. Et on se rend compte qu'en fait, on doit rester calme, on peut faire des choses qui sont interdites, mais on n'a pas le droit à se révolter. Donc du coup, on sent que le système il est fermé, qu'on est surveillé, et un ami qui nous dit, le 21 août 78, c'est 10 ans après la révolution de Prague, le printemps de Prague. Vous vous rendez compte? Et si on allait? Et on fait des demandes et on part tous. Une bande de 10 voyous, fous, hippies. On prend les motos et on part à Prague. On arrive à Prague et où on dort? On dort dans un foyer d'étudiants et c'est pas cher. Et le lendemain, effectivement, on se rend compte petit à petit, notre groupe, on voit qu'il y a une manifestation, pas comme chez nous, c'est une manifestation, on dirait, libre. C'est des milliers, des centaines de milliers de gens qui défilent sur le grand boulevard de Prague. Et regarde, ils ont tous une fleur à la boutonnière. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et la police, elle est dans les 4 coins de cette statue. Et Bogdan, le plus ingénu de notre bande, le plus utopique, on le voit comment il descend. Et il prend un bouquet de fleurs que la police jetait à la poubelle, un bouquet qui était posé sur le socle de cette statue de Venceslav. Et il fait ça 3 fois. En fait, la police remet le bouquet à la poubelle et lui, il le remet sur le socle. Et la 3e fois, il est embarqué par la police. Et Andy, il dit, ben oui, et moi, je vais voir ce qui se passe. Andy, le courageux, il descend de ses marches, il va voir un policier en bas et lui aussi est embarqué. On commence à se dire, petit à petit, on va tous disparaître. Alors, on les suit. On se remet tous en bande et on continue. On va les suivre. Et on arrive dans un commissariat de police. Et là, on reste 1h30 jusqu'à ce que Bogdan sort avec des menottes à la main. Andy à côté, il commence à se révolter un peu. Je dis, tais-toi. Cette fois-ci, c'est gros. L'autre, il dit, allez à l'ambassade, c'est grave. Ils m'ont fait signer des papiers en tchèque. Je ne sais pas ce que j'ai signé. Bogdan, il est bon pour la Sibérie. Il est bon pour disparaître, on nous dit à l'ambassade. Rentrez chez vous, faites pas de folie, allez-y. Et c'est là qu'on commence à se dire, effectivement, le système très, très enfermé, et on risque notre vie. Bogdan, il revient en Bucarest, expulsé de Tchécoslovaquie, officiellement, et il revient en Bucarest avec les reins en sang. Il est effrayé, parce qu'ils l'ont battu avec des sacs de sable pour pas laisser des traces sur le dos, jusqu'à ce qu'il a commencé à pisser du sang. Qu'on ne comprend pas d'un geste de telle minime importance que ça devient un acte qui pourrait s'interpréter d'une manière politique extrêmement grave. Et on se rend compte qu'en fait, notre groupe, parti de cette espèce de recherche de liberté, recherche de s'exprimer d'une manière libre, mais qui était un groupe de joyeux lurons, et là, on se rend compte tous qu'on est dans une merde noire et qu'on va être tous peut-être enfermés et peut-être accusés de faire des gestes qui peuvent s'interpréter politiquement. Notre groupe, c'est un groupe dangereux.
Une fois que je rentre depuis Prague, je me trouve, comme tous les autres qu'on partage ça, je me trouve très isolé. Je sens que je vis dans un pays ou dans un système qui ressemble de plus en plus à une prison. C'est peut-être que prison, c'est un grand mot. J'ai jamais vécu dans un univers carcéral. Mais de toutes les manières, ça apparente à quelque chose dont tu as envie de t'échapper. Plus j'avance dans l'âge, plus je vois que tout est morose, que ce système n'accepte pas les excentricités. Je vois autour de moi des gens qui quittent par contre le pays par des multiples scénarios, les scénarios les plus hallucinants. Dans les milieux artistiques, donc des gens connus qui disparaissent subitement de la scène publique. Donc je vois peu à peu une grande partie de la population qui disparaît.
La dissidence, elle doit s'enfuir. En Roumanie, la dissidence s'enfuit. Alors nous, on doit partir. Mais comment partir ? Peut-être s'acheter un passeport, il y a des solutions, s'acheter un passeport, oui, mais il faut, comme ça coûte cher, oui, ça coûte autant qu'une voiture, ah bon, et oui, il faut une moto, non, deux, trois motos, aïe, 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 oui, donc c'est cher. Il y a aussi, tu peux être juif ou arménien, ou, ah bon, ah oui, tu sais bien qu'ils partent depuis 68, les juifs et les arméniens, ils peuvent partir officiellement. Et oui, mais oui. Et puis, moi, je suis pas juif, quoique Subovici, Leibovici, je vais voir mon papa. Je dis, papa, tu es sûr qu'on n'est pas juif? Mais non, tu sais bien, je t'ai donné un prénom roumain. Les juifs, ils donnent des prénoms juifs. Tu es roumain, porte bien ton prénom. Ah oui, je suis roumain, merde.
Je commence à voir des disparitions des personnes autour de moi et je réalise que finalement, il y a peut-être des endroits où la vie est différente. Donc je me trouve dans une société qui est comme un cancer presque généralisé. Je sens que les cellules de ce cancer progressent, comme dans la vraie maladie. Et même je crois que même si je suis quelqu'un de sain ou mes amis sont sains, on commence à être tous atteints. On commence à parler des possibilités de partir, sont des possibilités techniques en quelque sorte. C'est ce souhait de liberté, cette envie de liberté qui commence à nous prendre tous. Avec Guigui, à ce moment-là, on a un pacte entre nous. Celui qui va partir en premier va tout faire pour trouver un moyen d'aider l'autre à sortir. Donc moi, pour ma part, je commence à envisager de faire quelque chose pour arriver dans un pays de l'autre côté de ce rideau de fer qui a l'air si infranchissable.
La maison où on habite avec Andy, Polonne en 66, à Bucarest, devient un lieu connu pour tous les artistes un peu underground, un peu branchés de Bucarest. Et parmi eux, Sassi, un metteur en scène français qui vient en Roumanie pour faire un spectacle et qui me propose de l'aider pour faire une scénographie. Bon, je lui fais une maquette, je lui fais les décors et il me dit « un jour je te le rendrai ». Ben oui, un jour, merci, il n'y a pas de souci. Moi, je suis jeune, j'aime bien faire la scénographie. Et 6 mois après, il revient en Roumanie avec un contrat avec mon nom dessus, tu vas partir en France. Et ça, c'est ta porte de sortie. Avec ce contrat, tu seras sorti de Roumanie. Oh. je prépare dans mes bagages quelques croquis, des références de scénographie, des dessins. Je prends un frac, un chapeau de forme. J'ai des accessoires de... Je ne sais pas pourquoi, je prends plein d'accessoires de scénographie avec moi. Je pars le 23 août 1981. Toute ma famille m'accompagne au train. Je prends le train, l'Orient Express d'ailleurs. Je vais voir ma maman pour lui dire au revoir. Ma maman me regarde et me dit « Tu vas revenir, n'est-ce pas ?» Je dis « Bien sûr, maman, je vais revenir. » « Bon, allez, pars !» Et je la vois qu'elle laisse une larme, à peine visible sur ses yeux. Elle sait que je ne vais plus revenir. Avant de monter dans le train, il y a Andy qui s'approche de moi et me chuchote à l'oreille. « Tu sais, si se passe quelque chose, que tu ne te sens pas bien, reviens, reviens. Tu sais, c'est pas une honte de revenir. » Et je lui sors. Non seulement que je veux pas revenir jamais de ma vie, mais je veux te faire sortir de là. Je lui fais cette promesse de tout mon cœur. Et le train part.
Le départ de Guigui me met dans un état qui est euphorique. Je suis content. Il est parti et il a échappé au système. Mais en même temps, c'est une déchirure entre nous. Du coup, je suis, d'après tant d'années, je me retrouve seul. Je suis donc absolument décidé, presque aveuglement, de rejoindre cette amitié qui reste quand même une amitié exceptionnelle et qui dépasse tout autre lien.
Un an et demi après mon départ, Vera arrive enfin en France. Elle me raconte l'état dans lequel elle a laissé Andy. Notre cher Andy est déprimé et il est devenu triste. Il n'est plus rigolo. La plupart de notre groupe se trouve déjà en Occident. Andy, il est tout seul là-bas. Et là, on va essayer de le faire sortir, Vera, non ? Oui, oui, à tout prix.
Le départ, en effet, quitter le pays, devient, entre guillemets, c'est triste à dire, mais un sport national. Mais les seuls moyens qui restent sont quelques moyens illégaux qui supposent aussi une certaine imagination et un certain courage, ou plutôt un certain désespoir.
On rencontre dans un château d'à côté, un château de saumière abandonné, on rencontre un type assez bizarroïde qui nous invite d'ailleurs à prendre un café dans son petit... cuisinière d'été, et il a un chien errant à côté, il est gentil, mais il est assez bizarre. Et on lui raconte notre histoire, comment, d'où on vient, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, et on arrive à dire, effectivement, on est en manque de notre meilleur ami parce qu'on l'a laissé tomber en Roumanie. Et lui, il nous dit, mais moi, je vais souvent dans ces pays de l'Est. Ah bon, comment tu vas ? Ben, je vais avec un cirque. Ah bon, avec un cirque ambulant. Ah, oh, waouh, extraordinaire. Et tu crois que tu peux aller ? Bah oui, moi je peux aller, je vous le cherche, votre ami. Incroyable. On organise le départ dans le vide, ça se concrétise.
Il y a un fait qui arrive à un de mes amis qui essaye de passer la frontière entre la Roumanie et la Yougoslavie par la voie aquatique. Ils traversent le Danube à la nage. Ils sont deux. Ils se font rattraper, monter dans un chalutier de la douane, ou plutôt de la police, parce que c'est une police de frontière, c'est plus qu'une douane. Ils entendent un petit clapotis dans l'eau. À ce moment-là, tout le monde reste figé sur le bateau et les policiers réalisent qu'en effet, il y a deux personnes, deux filles qui nagent pour faire la même traversée. Ils s'approchent, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine de s'arrêter ? Est-ce que ça vaut la peine de compliquer les choses ? Donc, ils tirent à bout portant et les deux filles sont tuées sur le champ. Cette image-là d'une cruauté rare, d'une violence terrible, d'une injustice hors norme, c'est une image qui m'a hanté pendant ces préparatifs. Donc c'est une histoire qui me met déjà en tête que c'est une confrontation entre David et Goliath, et que la ruse et le courage et la chance peuvent aider le plus faible de vaincre un géant qui a toutes les données pour sortir vainqueur.
Avec le gitan, on imagine comment il va faire et donc on lui demande comment tu vas faire parce que c'est difficile de, à la frontière, il vous compte, il vous prend les papiers et tout ça. Et lui, il dit non, j'ai une astuce, tu sais, la petite chienne là, la chienne, elle va mettre bas. Je dis, ben alors? Mais oui, elle va mettre bas et au moment où on va passer la frontière, on lâche les chiots. Et quand ils vont venir nous contrôler, les chiots, ils vont se balader. C'est une diversion que j'ai fait. Ils vont contrôler, ils vont être, les chiots sont gentils, ils vont mordre, ils vont sauter, la chienne, elle va gueuler. Pouah, on n'a jamais pensé à ça. Dis donc, incroyable, vas-y. On prépare le départ du gitan, on lui file 2000 francs, Vera il lui file une bague qu'elle a reçue d'Andy juste avant de partir vers la France. On est sûr que ça va bien se passer et puis il part. Et malheureusement, il nous appelle 3 semaines après pour nous dire qu'il ne peut pas rentrer en Roumanie. Ils l'ont dévié avec ce cirque, ils l'ont dévié vers l'Yougoslavie, il n'a pas pu rentrer par le nord de la Roumanie. Donc, projet tombé à l'eau. Mais j'ai toujours le sentiment que ce gitan ne nous a pas volé. Il voulait vraiment le faire.
C'est pas que ça me contrarie, je fais complètement confiance à Guigui, mais c'est toujours le peur de pas se précipiter, de choisir l'action la moins bien préparée.
On commence à s'imaginer plein de scénarios, comment le faire sortir, Andy. Et un des scénarios, il devient un peu James Bond, parce que ça se passe dans un train, il faut qu'il change la photo sur un passeport dans un train qui roule à plein vitesse, dans les chiottes du train, donc c'est un peu farfelu. Sassi, notre metteur en scène, celui qui m'a fait sortir de Roumanie, et il vient, il écoute ce qu'on pense, et il dit, mais non, mais vous êtes fou, mais vous êtes pas dans un James Bond, il faut quand même le faire gentiment. Il dit, mais tous les étrangers en plein été, ils vont à la mer Noire, ils vont quand même à la mer Noire, donc pourquoi vous le faites pas là-bas? Un couple de Français, il va en Roumanie en voyage, lui, il va laisser son passeport à Andy, on va remplacer la photo d'Andy, elle va partir vers la frontière la plus près, qui est la Bulgarie, à 3 km de l'endroit où ils vont à la plage. Et lui, il va partir vers Bucarest, le temps que Andy sort de Roumanie, il va avoir le temps de déclarer son passeport volé à l'ambassade française à Bucarest.
Étant séparés dans deux mondes différents, on commence déjà à parler au téléphone. Comme on n'est pas sûr qu'on est ou pas sous une écoute, on le fait d'une manière codée, qui est connu que par nous. On s'obstine de le faire comme ça. C'est la discipline du secret. Par exemple, je dis des choses du genre, je vais passer mes vacances au nord du pays. C'est clair que l'action va se passer au sud du pays. Du côté de Guigui, il me dit, ça doit se passer je dois prendre un train. C'est clair que je dois prendre une voiture.
Marie-Pierre, qui est ma secrétaire dans le cabinet d'architecture, elle se propose, elle y va, elle est aventureuse, elle aime bien le voyage. Et Serge, un ami de Tarbes, qui est un peu alternatif et un peu aventurier, il se propose lui aussi. Ils se connaissent à peine avec Marie-Pierre, mais il veut y aller aussi. Donc du coup, c'est voilà, le couple de Français qui va sortir Andy de Roumanie.
J'ai toutes les informations sur les signes que je dois porter sur moi, sur l'endroit et sur l'heure où la rencontre doit se passer. Mais pour le reste, je ne sais pas si c'est 1, 2, 5 personnes, comment ça se passe. S'il y a quelqu'un qui doit faire une traversée à pied, ça se passe par la mer, peu importe. Mais je fais confiance. J'en suis persuadé que Guigui a réussi à mobiliser les forces nécessaires. Je me sens investi de la force pour arriver à mener à bon fin cette action d'exfiltration.
Tout se passe bien, ils ont toutes les instructions, Marie-Pierre est très organisée, elle prend en sténo toutes les notes, elle connaît plus ou moins les endroits, et Serge est optimiste et très fort, très sûr de lui, bien sûr, et ils y vont. Au revoir les amis, on leur file 4000 francs pour le voyage et ils partent courageux.
L'un des moments les plus déchirants dans tout ça, c'est évidemment la séparation de mes parents, de ma famille, de mes parents. Ma mère et mon père, ils ne savent absolument rien. Au moment de cette séparation, ils pensent que dans 2 semaines, on va se revoir. Et moi, je sais que dans les 2 semaines, soit je suis libre, impossible à les voir, ou sinon, quelque chose de pire va m'arriver, que je ne veux pas imaginer. Mais dans ce cas-là aussi, ils ne vont pas me voir. Difficile dans une relation parents et enfants, de cacher une vérité qui est tellement, qui risque de changer tellement le cours de leur vie. Donc j'arrive au bord de la mer, le jour venu, le jour sans tant attendu, je me mets au bord de la terrasse avec ma canette de bière devant et j'attends. Mon regard s'arrête comme dans un travelling en quelque sorte et je vois deux personnes. Deux anges. Ce sont deux anges qui s'approchent. C'est une tranquillité qui se dégage, qui est phénoménale. Je me sens transporté dans un autre monde de calme, sans nervosité, sans rien du tout. Maintenant, je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être le signe de Dieu que je vois peut-être pour la première fois, ou c'est le signe de quelque chose qui reste inexplicable. Même Dieu, il est inexplicable. On se dit peut-être à peine un bonjour et par un simple signe, on s'éloigne de cette terrasse. Donc on part et on se dirige vers la plage. Il y a un seul obstacle, moi je parle pas le français et je le comprends à peine. Donc je comprends par le langage qu'on peut pratiquer que pour des raisons techniques, changement, modification d'un passeport, ils ont besoin d'un endroit stable, d'une table ou quelque chose où ils peuvent utiliser quelques ustensiles pour bricoler le passeport. Serge qui change les agrafes avec beaucoup de professionnalisme parce que ils ont fait beaucoup d'exercices avec Guigui en France. Ils ont fait pas mal de photos agrafées sur des feuilles factices comme ça. Il coupe bien, donc sans rayer le papier, sans détruire le papier, la feuille porteuse de la photo. Il coupe, il replace la nouvelle photo. Et il replace les agrafes. Donc le faux est presque parfait. Sauf que l'agrafe qui se pose maintenant ne se superpose pas parfaitement avec l'ancienne agrafe. Donc il y a une trace de rouille de l'ancienne agrafe qu'on aperçoit. Et à ce moment-là, Serge me demande, est-ce que c'est une imperfection? Est-ce que tu risques avec ça? Est-ce que tu passes ou tu passes pas? Et donc je dis, de toutes les manières, pour moi c'est parfait. Je décide de passer. Donc, il me laisse la latitude de choisir jusqu'au dernier détail. Sa vie, elle est aussi en péril. Si je suis attrapé, lui, il y a des fortes chances qu'il soit rattrapé aussi. Le lendemain matin, donc, on se retrouve de bonne heure. Je descends dans ma voiture. Je lui remets les clés de ma voiture. Il me donne les siennes. Je remonte dans sa voiture et je repars vers la frontière avec Marie-Pierre. Et lui, il repart vers Bucarest avec ma voiture. Il n'y a pas d'embrassade. Chacun a dans sa tête son plan. Il y a moins de le minimum de risques qu'on doit prendre, donc il ne faut pas attirer l'attention. Je suis la première fois dans une voiture française. Je conduis une voiture française. Bon, c'est comme les autres, mais pour moi, c'est une première, donc il se rajoute à mes émotions. Marie-Pierre m'explique quel est le point de frontière préétabli. J'arrive à ce poste de frontière, et là, il n'y a personne, à part les soldats et les militaires qui gardent le poste de frontière. À part ça, il y a un grand camion vide qui se fait contrôler devant notre voiture. Moi, je conduis la voiture, et Marie-Pierre donne les papiers. Il se fait contrôler, même qu'il est vide, c'est un camion frigorifique vide. Donc une boîte vide, elle se fait contrôler une demi-heure. Donc tu commences à penser qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en règle. C'est même pas normal d'avoir un passeport bloqué une demi-heure, et on voit une voiture de la police secrète qui arrive, et il y a quatre types qui sont tous habillés avec le même type de costume, pour les mêmes vêtements, donc c'est clair, des gens de la police secrète qui ont quasiment une uniforme, et il y a un haut gradé qui descend avec. Moi, je me dis, c'est là que ça se termine l'aventure, ça n'a pas été trop long, et je sens déjà la torture qui va arriver. Comment on va commencer? Comment ça va se terminer? Moi, je supporte aucune agression physique, donc il n'y a plus de courage, il n'y a plus de... Je ne m'évanouis pas, je tiens un bon, mais parce que je suis assis dans la voiture. Je crois en effet que je suis dans un état second, parce que le temps qui se termine pas, qui est infini, dans un endroit qui est désertique, où il y a un simple contrôle qui se fait, c'est pas un contrôle de 1000 personnes ou de 200 personnes, c'est un contrôle de 2 personnes, d'un seul véhicule. Donc tu sais qu'il contrôle depuis une demi-heure un papier, il regarde un papier qui est faux. Là, ma vue, elle est trouble. Je pense que le sort n'est pas de mon côté et qu'en effet, il est sur le point de découvrir quelque chose. Le douanier sort, je ne le vois même pas, j'entends une voix en français qui dit « bon voyage ». Donc, « bon voyage », je comprends ce que ça veut dire. À partir de là, je suis libre. Donc, j'essaye de démarrer la voiture normalement, qu'il n'y a pas un dérapage ou autre chose. Marie-Pierre est dans la voiture, on n'essaye pas de s'embrasser ou de faire des gestes de grand soulagement. Donc, on part en toute normalité. On arrive en Bulgarie, autre douane. Mais comme la douane roumaine, elle est connue comme très, très sévère, les Bulgares regardent de très, très peu les passeports. Je continue à conduire la voiture, sauf que je conduis à 30 km à l'heure, pas plus. Je reste toujours au volant, donc je regarde les yeux rivés dans le rétroviseur, parce que je suis sûr que les Roumains, ils ont découvert quand même quelque chose et qu'ils essayent de nous poursuivre jusqu'au point de frontière qui est avec la Turquie. Parce que c'est une chose, dans un pays comme ça, de faire un passage frauduleux dans un autre pays frère. Et autre chose, de tenter le passage à l'Occident. C'est beaucoup plus grave.
On est dans le noir, on est tous les deux, avec Vera, on reste sur notre balcon en regardant un cèdre. Il fait chaud à Nîmes, il fait chaud partout. Les vacances sont bel et bien arrivées, mais nous sommes seuls et un peu désespérés parce que l'attente, elle est longue. On n'a pas de nouvelles de ceux qui sont partis, on ne sait plus quoi faire, on est désespéré, moi je fais une allergie, je gonfle de partout. Et d'un coup, il y a Cathy, notre amie, qui vient nous voir. Elle dit, mais qu'est-ce que vous êtes? Dans quel état vous êtes tous les deux? Dites, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois, on attend. Et puis elle nous dit, ben, écoutez, pourquoi vous n'allez pas voir? Vous savez, j'ai à Sommières, qui est pas loin d'ici, donc une voyante qui peut vous prédire un peu l'avenir. Je lui dis, arrête, Cathy, on n'est pas arrivé là. Si, quand même, allez-y. Derrière, elle dit, allez, on va quand même essayer. On monte en voiture, on va à la voyante, elle nous ouvre la porte, elle dit, écoutez, vous avez un problème, il paraît. Oui, ben, on a un problème et on voudrait savoir quand est-ce qu'elle va être résolue. Ah bon? Et bien, elle sort un espèce de calendrier hein, comme ça, et elle a un pendule, et on est le mois d'août. Elle dit, ça commencerait quand, votre histoire? Ben, écoutez, à partir, disons, du 20 août. Bon, elle commence à balancer sa petite balançoire sur le 20 août. Rien. 21, rien. Le pendule ne s'arrête plus jusqu'au 27 août. D'accord, on lui file 100 francs, on lui dit merci, je sors, et je lui dis à Vera, t'as vu Vera? Quelle connerie on fait, mais regarde comment ça se passe, regarde, elle nous dit que le 20, il ne se passe rien et que tout ça va se finir le 27 août. Tu te rends compte, c'est trop long.
Premier souhait, c'est d'appeler en France. Et de dire que l'opération, elle est réussie. Parce qu'étant en Grèce, je suis sûr que ça, c'est pour de bon. Poste fermé à 11h le soir, donc impossible d'appeler. Donc du coup, on trouve une place pour se loger, au bord de la mer, sur les galets, avec la R5.
Le lendemain, je me réveille à 6 heures du matin sur un soleil qui est complètement différent de celui que j'étais habitué en Roumanie. Donc je me réveille et je regarde la R5 comme une capsule spatiale. Donc on passe le coup de fil. Donc Guigui nous entend. Il dit comment ça se passe. Leur voix, elle est tremblante. Il dit on est sauvé, on est en Grèce. Et là, on entend une explosion. De l'autre côté, c'est une explosion qui non seulement ça peut combler, ça comble l'enthousiasme qu'on a à nous, la libération des énergies, en effet. Ils ont réalisé que l'action, elle est réussie. J'ai plus la force de dire quoi que ce soit. Je les écoute. Là-bas, c'est un débordement d'énergie, un débordement de joie, un soulagement presque inhumain. C'est un soulagement. C'est des choses d'une force qui me fait rester pas bloqué, mais en écoutant ces cris, j'assiste à ma libération, en effet.
Le 27 arrive. Il fait toujours chaud. Nous, on est sur le canapé. On ne regarde pas la télé. On ne regarde rien. On ne fait rien. On se regarde. On attend. L'attente. Et là, on entend un sifflement. Notre sifflement d'antan. Le sifflement qu'on faisait dans les salles de cinéma pour se retrouver dans le noir. On fait comme ça. On fait une espèce d'ultrason. Comme ça, tu ne déranges pas les autres. Et puis on entend, on sort sur le balcon et d'en haut, on voit Andy et Marie-Pierre à côté de la voiture. La voyante, elle a eu raison pour ses 100 francs. C'est le 27 qu'enfin Andy est libre. Ils montent, on s'embrasse. On les voit un peu poussiéreux, fatigués, mais heureux. Transpirer mais d'un éclat incroyable dans les yeux. On est content, on est enfin, on touche Andy, c'est incroyable. Le chemin qu'ils ont parcouru, le temps qu'ils ont fait, et Marie-Pierre. Parce que je revis le moment, tu vois. C'est vraiment incroyable parce qu'on ne croit pas nos yeux. C'est comme un mirage. C'est comme quelque chose qu'on n'a pas cru voir un jour. C'est quand même extraordinaire. Ils sont tous les deux en vie, radieux, même fatigués, les larmes aux yeux, mais ils sont là. On peut le toucher. On l'a fait. On l'a réalisé. Et ils sont nos héros définitifs. Ils ont traversé une Europe, ils ont traversé le rideau de fer et ils sont tous les deux en vie, heureux et vivants. Et c'est incroyable.
Souvent, quand je raconte cette histoire, les gens me disent « mais quel courage !» Mais quel courage pour eux d'organiser d'organiser quelque chose de si périlleux, en effet. Pour la meilleure volonté, tu peux assister à la perte de celui que tu aimes, celui que tu veux aider. Je regarde autour de moi et entre autres, je me dis, j'ai 33 ans. En même temps, j'ai 2 jours, j'ai un âge de 2 jours. On arrive et on se retrouve. Mais c'est presque une... comment dirais-je ? C'est presque... C'est la timidité, c'est la tension, c'est la méfiance. Il y a un mélange de bonheur, c'est plein de sentiments contradictoires en effet. C'est pas du tout un sentiment bien défini pour dire c'est la joie, c'est extraordinaire, on s'est roulé par terre, pas du tout.
Dans la joie des retrouvailles, bien sûr qu'on pense à Serge. Qu'est-ce qui se passe avec Serge? Est-ce qu'il a pu aller à l'ambassade? Est-ce qu'il a déclaré son passeport? On n'a plus de nouvelles. Donc, comment faire pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Serge? On raconte ça à nos amis et Cathy, encore une fois, cette Cathy formidable qui est très pragmatique et qui dit, ben, écoutez, moi, je prends le téléphone et j'appelle. Où? L'ambassade française en Roumanie. Madame le consul au téléphone lui dit, est-ce que Serge a une assurance, madame? L'hôtel dit, ben non, bien sûr que non. Il n'a pas pris d'assurance, le voyou. Ah ben, madame, il paraît qu'il s'agit d'une somme très importante d'argent que l'État roumain demande pour ce Serge qui est tenu entre-temps chez moi.
On s'est passé pour sa tante, pour son oncle, pour des gens qui lui veulent du bien et qu'on va, on va aller à l'ambassade, au ministère des Affaires étrangères pour le sortir d'un pays parce qu'il est, où il est injustement retenu, parce qu'il a eu simplement un passeport volé.
Serge arrive 3 semaines après, il arrive à Paris. Du coup, on monte tous les 4 à Paris. Il y a Marie-Pierre qui nous accompagne, Vera et Andy. On accueille Serge. Il est formidable, il est radieux et on s'embrasse. Il est heureux, il est libre, mais il nous raconte ce qui s'est passé en Roumanie. Il a été à l'ambassade, il a vu Madame le Consul, il est resté, ils étaient ensemble à la police roumaine, où, bien sûr, on lui a posé plein de questions. On lui a effectivement dit qu'une somme d'argent assez importante pourrait être demandée par l'État roumain en caution de son départ. Ils ont insisté. Madame le Consul a fait tout le possible pour le libérer. Il a été libéré. Il est monté dans un train avec un passeport provisoire. À la frontière, par contre, il a été descendu du train et ils l'ont gardé en 24 heures dans une cellule dans le noir. Et là, il s'est dit, c'est là qu'il a eu peur. Là, il avait la trouille parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas encore fini et qu'il aurait pu rester, lui, comme otage définitivement en Roumanie. 24 heures après, un colonel arrive, très bien habillé, avec une autorisation dans la main, avec un français parfait. Il lui dit « Monsieur Serge, vous pouvez passer ». Mais savait une chose que, comme il disait Talleyrand, l'État passe, mais la police reste. Et là, Serge me dit, j'ai eu la trouille de ma vie et plus jamais je mettrai les pieds dans ces putains de pays de l'Est.
C'est évident qu'il avait ça très, très intensément dans son corps et dans son âme. C'est quand même traumatisant de rester sans savoir quand tu peux quitter ce pays-là.
La soirée avec Serge est formidable. On danse, on rit, on crie. Lui, il danse comme un fou. On le voit excité un max, mais il a quelque chose. Il a quelque chose en lui qui nous fait croire qu'un choc s'est passé avec notre grand aventurier Serge. Et on ne sait pas. On ne s'imagine pas à l'époque qu'on ne va plus revoir Serge depuis.
Il a dit qu'il a fait un geste par amitié, qu'il n'a pas voulu pas continuer, mais il a dit que c'était très intense. Il voulait reprendre sa vie d'une certaine manière. Et je pense qu'il voulait sortir quelqu'un de ce pays-là, de le libérer, mais il ne s'est pas rendu compte, en effet, la dimension du geste humain. Évidemment, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais le péril qui l'a guetté, il ne l'a pas vu à sa vraie dimension. Marie-Pierre, on la voit, elle s'est mariée entre-temps, elle a 2 enfants, elle vit dans le midi de la France, toujours à Nîmes, elle a remonté à plusieurs reprises, Guigui et Vera, ou moi. De l'autre côté, on est descendu la voir, donc on garde le contact et les bons souvenirs de cette aventure.
Mais mon amitié avec Andy, elle dure depuis une cinquantaine d'années déjà. Elle se renforce de jour en jour, mais elle est plus forte qu'une amitié. On est comme des jumeaux, on a des sensations. Quand lui, il a mal, moi, j'ai mal. Quand je veux l'appeler, il m'appelle. La télépathie fonctionne de plus en plus fort. On a une... Non seulement les aventures de notre vie nous ont liés tellement, mais c'est tout ce vécu qui a été très près, une amitié incroyable, une amitié qui dépasse les décrits des romans ou des aventures incroyables.
C'est une amitié qui date de 50 ans, oui, plus d'un demi-siècle. Oui, ça date. Je pense que on réserve autant de surprises un à l'autre depuis 50 ans.
On se rappelle qu'un jour dans sa cour, quand on faisait des fêtes, on était tous les deux en regardant le ciel, une nuit étoilée et lune pleine. Un ami est venu à côté de nous et il nous a chuchoté à l'oreille « Hey, Baetica, hey, l'avenir est intéressant. » Et là, on s'est regardé tous les deux, on n'a rien compris. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis effectivement à l'époque, qui aurait pu croire que l'avenir serait tellement intéressant que celui qu'on a passé. C'est pour ça qu'avec Andy, même aujourd'hui, et avec Vera, on croit que l'avenir reste intéressant. Et je crois que ça, c'est valable pour tous. À n'importe quel âge, l'avenir peut être intéressant.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Natacha Avram. Lucille Haussel était à la réalisation, Louise Emerlé à la production et La Fugitive a assuré le mix. Si cet épisode vous a plu, si Passage vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.